les grands titres de ce samedi 15 juillet. En France, on célèbre la fête nationale, mais on commémore aussi l'attaque de Nice. L'ex-sénateur des Verts, Scott Ludlam, démissionne en raison de sa double citoyenneté. Et un Français, Warren Barguil, remporte la 13e étape du Tour de France. On ne peut pas passer à côté. On débute ce journal en vous parlant des célébrations de la fête nationale en France. Tout d'abord, les feux d'artifice il y a quelques heures. Stéphane Lagarde de RFI était au pied de la Tour Eiffel. Il nous décrit l'ambiance.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, effectivement, près de cette Tour Eiffel. Tous les ponts de Paris étaient noirs de monde, les rives aussi, et ont effectivement ce spectacle pyrotechnique difficile à interpréter, en tout cas beaucoup de thèmes développés. On a vu évidemment du blanc, du bleu et du rouge, du bleu, blanc, rouge, même dans l'ordre pour la fête nationale, et puis les couleurs de l'olympisme, évidemment, puisque Paris, vous le savez, attend, en tout cas espère, les Jeux Olympiques en 2024. Une atmosphère festive, qu'on a envie de jouer les prolongations ce soir, à 14 juillet, malgré la fraîcheur, ou près de l'île Ossigne, par exemple, là où je me trouve maintenant, eh bien les gens continuent de pique-niquer dans l'herbe après le spectacle. Un 14 juillet, pas comme les autres aussi, la présence peut-être du président américain cet après-midi. Paris, the place to be, Paris là où il faut être, m'a dit par exemple une touriste tout à l'heure devant les embouteillages de péniches, de bateaux-mouches. Là aussi, beaucoup de monde sur les bateaux-mouches et un embouteillage de bateaux-mouches devant la Tour Eiffel pour voir le spectacle. Beaucoup de monde sur les ponts, encore une fois, et des touristes venus du monde entier. À l'instant, un Suédois m'a dit au revoir. Là, il était grimpé sur le toit, debout de son camping-car au milieu d'un pont pour assister au spectacle.
Un peu plus tôt dans la journée, il y avait le traditionnel défilé militaire avec comme invité d'honneur nul autre que le président américain Donald Trump. Pierre-Olivier de RFI était là.
Du Daft Punk, joué par la fanfare de l'Interarmée en plein défilé du 14 juillet, la France a voulu marquer les esprits et surtout celui du couple présidentiel américain. Melania Trump, la femme de Donald, apprécie, paraît-il, beaucoup ce groupe de musique français. Sur les Champs-Élysées, Robert Fischer voit son président en vrai pour la première fois, un comble pour ce touriste américain et sa famille qui viennent
from the great state of Texas.
Du grand état du Texas, dit-il.
We're gonna take in the,
nous profitons de l'ambiance à la française. Avec un café français, nous sommes venus pour admirer les avions américains survoler cette magnifique avenue. C'est l'union de nos deux nations. Le 14 juillet est comme notre 4 juillet, simplement deux semaines plus tard.
Un peu plus loin, dans la foule, sous un soleil de plomb, une mère regarde son fils fraîchement sorti de l'école Saint-Cyr défiler pour la première fois, ému.
Pierre, oui. Voilà, des étapes qui font qu'on a vu tout le cheminement de notre fils, qui était un jeune homme et qui est un homme maintenant.
Sous le balai des avions et au rythme du tac-à-tac des chevaux, Parisiens et Américains ont profité de ce 14 juillet en oubliant presque les 11 000 policiers et gendarmes présents pour assurer la sécurité de ce défilé.
Si vous avez aimé autant que nous cette fanfare interarmée qui joue Daft Punk, on aura 3 minutes à vous faire écouter, c'est juste après les sports. Et si vous voulez étendre vos célébrations du 14 juillet tout le week-end, on a une liste d'événements partout en Australie. C'est sur notre page Facebook, en haut de la page SBS French. Malheureusement, le 14 juillet en France, c'est pas qu'un jour de célébration. On se rappelle que l'an dernier, une attaque au camion Bélier avait fait 86 morts à Nice. Stéphane Burgat de RFI s'est rendu là-bas pour voir comment les Niçois vivaient le 14 juillet, un an après.
Quand retentit Nice à la belle l'hymne de la ville, les Niçois sont éparpillés en plusieurs endroits de l'hypercentre en raison des périmètres de sécurité et les attentes autour de cette cérémonie sont hautes.
Ce 14 juillet, c'est quelque chose qui est foutu. On perd déjà le feu d'artifice, on perd tout et au moins qu'il fasse quelque chose de beau, que la France se mobilise justement.
Des Niçois dispersés, éloignés du lieu de l'hommage, mais revigorés comme cet ultra du club de football de la ville.
On sera toujours debout et il n'y aura personne qui nous mettra par terre, personne. C'est la seule chose que j'ai à dire, on n'a peur de rien.
Mais derrière les grands panneaux noirs sur la place Masséna, les séquences s'enchaînent. De l'autre côté, les regards sont fixés sur l'écran géant. Personne ne bouge à l'annonce des noms des victimes inscrits sur un tableau blanc formant un cœur. Une tonalité juste pour ce jeune Niçois.
Bel hommage, hein, vraiment très touchant. La fête nationale passe au second plan malgré tout parce qu'on a ce souvenir, on était présent physiquement. On a revécu ça un petit peu, mais bon, c'est vraiment important d'être là quand même.
Cérémonie conclue par une prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, promettant de ne rien lâcher dans la lutte contre le terrorisme.
Justement, on l'écoute, le président français Emmanuel Macron.
Inlassablement, cette lutte contre le terrorisme, Ce que veulent nos assaillants, c'est simplement nous voir pleurer. Et vous avez répondu par votre dignité. Nous répondrons par la lutte sans merci, à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières, contre le terrorisme, partout.
Après la cérémonie, Emmanuel Macron a rencontré les survivants de l'attaque et les familles des victimes. Plus près de chez nous maintenant, en Australie, des renforts doivent arriver à Melbourne aujourd'hui pour aider à combattre le brasier du centre de recyclage SKM Recycling. Plus de 100 pompiers combattent l'incendie qui a commencé jeudi matin à Coolaroo. Le premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, a dit que deux citernes et un robot pompier ont été envoyés de Nouvelle-Galles du Sud.
When it comes to very specialist firefighting, we always work as a team. And if there's an incident in Sydney, we'll help them. If there's an incident somewhere else in the country, we'll always be there to help them and vice versa.
Le premier ministre du Victoria, Daniel Andrews. L'ex-sénateur des Verts, Scott Ludlam, a dit que son remplacement au Parlement ne sera pas annoncé tout de suite. Ludlam a dû démissionner après avoir réalisé qu'il avait à la fois la citoyenneté néo-zélandaise et australienne. Il a dit à ABC que le Sénat doit examiner si la situation doit être référée à la Cour.
The court has to decide which way to handle it, whether it opens a casual vacancy or counts back from the 2016 election. That being the case, Jordan's name may well come up. We're several layers of hypothetical deep, so we're just going to have to wait and see how that all plays out.
L'ex-sénateur des Verts, Scott Ludlam. Le ministre de la Justice, Michael Keenan, a accusé le gouvernement du Queensland de se servir du cyclone Debbie pour faire de la politique. Cette accusation a été lancée après que la première ministre de l'État, Anastasia Palaszczuk, ait dit que la contribution du fédéral pour aider les victimes était dérisoire. Le gouvernement Turnbull a donné un montant plus bas que ce qui avait été demandé. La vice-première ministre du Queensland, Jackie Trad, a dit à ABC qu'elle était déçue.
The federal government came back and said, no, we don't want this $220 million package. We think we'll only fund a combined package of $58 million, $58.6 million, and we'll give you $29 million, which is our 50%.
La vice-première ministre du Queensland, Jackie Trad. L'Association médicale australienne affirme que plus de la moitié des médecins travaillent trop et que ça pose un danger. Certains docteurs travaillent plus de 70 heures dans une seule période de travail. Ce sont les chirurgiens et les médecins des soins intensifs qui seraient les plus affectés. Revenons maintenant à l'international. D'abord en Afghanistan, où les États-Unis ont annoncé que le leader de Daesh au pays, Abu Sayyad, a été tué dans un raid dans la province de Kunar. La porte-parole du Pentagone, Dana White, a dit que d'autres membres de Daesh ont aussi été tués dans l'attaque. Sayed est le troisième leader de Daesh à être tué en Afghanistan dans la dernière année. Au Mali, la situation sécuritaire se dégrade toujours dans le centre du pays. Des terroristes ont attaqué un village en s'en prenant au symbole de l'État. À Bamako, Anthony Fouchard.
Il y a deux jours, huit assaillants à moto prennent d'assaut la mairie fermée au moment des faits du petit village de Kouakrou, à quelques dizaines de kilomètres de Djéné. Les terroristes ont saccagé les locaux et jeté l'ensemble des documents dans la cour avant de descendre le drapeau du Mali dressé sur son mât. Une intimidation de plus dans cette région, selon le préfet de Djéné, Bolé Babi, qui explique que ces avertissements, ces menaces, dit-il, sont fréquentes. Dans le village de Kouakrou, un habitant explique que tous ceux qui veulent collaborer avec l'État sont ensuite menacés et agressés par, dit-il, les partisans du prédicateur Pela Madoun Koufa. Dans le même temps, l'armée malienne a annoncé avoir abattu jeudi soir celui qu'elle présente comme un terroriste auteur de multiples attaques, notamment celle très récente contre la douane et la gendarmerie de Bénéna, c'est à la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque avait lieu la semaine dernière. Le ministère de la Défense ne donne pas plus de précisions sur cette opération menée par la garde nationale qui a coûté la vie à cet homme.
Anthony Fouchard de RFI. Et un mot de sport pour terminer le journal. C'est un Français, Warren Barguil, qui a remporté la 13e étape du Tour de France qui avait lieu jour de fête nationale le 14 juillet. On aura sa réaction dans notre magazine des sports juste après la météo. On fait le tour du pays en commençant par Perth, où aujourd'hui c'est un maximum de 20 degrés. Adélaïde, 15. Melbourne, 13. Hobart, 11. Canberra, 12. Wollongong, 17. Sydney et Newcastle, 18 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 27. Et à Darwin, 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce samedi 15 juillet. En France, on célèbre la fête nationale, mais on commémore aussi l'attaque de Nice. L'ex-sénateur des Verts, Scott Ludlam, a dû démissionner en raison de sa double citoyenneté. Et un Français, Warren Barguil, remporte la 13e étape du Tour de France.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench